Technologie, science, algorithme,
simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 23e épisode du podcast Interstice. Les ordinateurs sont omniprésents dans notre vie quotidienne et avec eux les virus qui peuvent vite devenir le cauchemar de certains utilisateurs imprudents. Pour en discuter, accueillons Jean-Yves Marion, un spécialiste en virologie informatique. Jean-Yves Marion, bonjour.
Bonjour.
On utilise arbitrairement le terme virus pour désigner ce qu'on appelle les codes malveillants, c'est-à-dire les virus, les vers, les chevaux de Troie, etc. Qu'est-ce qu'un virus exactement ?
Alors, un virus, dans sa définition originale qui a été donnée par Fred Cohen, ce n'est pas défini par lui-même, c'est défini comme un ensemble de codes, un ensemble de programmes qui vont être dits viraux et qui vont avoir la propriété de se reproduire. C'est-à-dire qu'un code de cet ensemble va s'exécuter et va se transformer dans un autre code qui est toujours le même ensemble.
Un code, c'est des 0 et des 1, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, c'est un programme. Et ça correspond relativement bien à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va exécuter un code malveillant sur son ordinateur qui a des chances d'essayer de se reproduire, soit en passant par un support comme une clé USB ou par le réseau, ou par un réseau soit Internet classique, soit en réseau pair à pair. Ensuite, cette modélisation a été un petit peu revue. Et donc, on voit vraiment un virus, c'est plus généralement un programme automodifiant, c'est-à-dire qu'un programme qui est capable de modifier son propre code et en particulier de se reproduire.
Une fois qu'il est à l'intérieur de nos systèmes.
Quand il va s'exécuter, il va modifier lui-même son code. Alors ça a pas mal d'intérêt, bien sûr, c'est intéressant pour pouvoir se reproduire et donc se dupliquer et infecter d'autres systèmes. Mais ça permet aussi de se camoufler. C'est-à-dire qu'un code malveillant va essayer de résister à l'analyste humain qui va essayer de comprendre son fonctionnement. Pour ça, il va essayer de le tromper. Pour le tromper, il va modifier son code en permanence. Alors, c'est nous ce qu'on appelle dans notre jargon des programmes automodifiants, et c'est ce qu'on essaye d'étudier. Comment fonctionnent les programmes automodifiants ? Existe-t-il une bonne sémantique des programmes automodifiants ? Pour nous, c'est vraiment le sujet, c'est une sorte de définition actuelle de ce qu'est un virus ou un code malveillant actuellement.
Bien, donc vous êtes directeur du laboratoire de haute sécurité à Nancy, qui est une première en France. Comment se fait-il qu'on ait dû attendre aussi longtemps pour créer un tel laboratoire, alors que ça fait bien plus de 20 ans que les premiers virus sont apparus?
Alors, ça fait beaucoup plus de 20 ans, en fait, parce que ça doit remonter dans les années 80, je pense, donc on est bientôt à 30 ans. Hein. La réponse à votre question, ben, je ne sais pas, je suis moi-même très très surpris. En fait, ce que j'ai observé il y a quelques années, c'est que la recherche sur les virus s'était essentiellement portée par, bien sûr, les éditeurs d'antivirus, les grands noms, et puis par les différents organismes d'État liés à la défense, comme l'armée, etc. Mais les universités ne s'étaient pas vraiment préoccupées de ce sujet. C'est-à-dire toujours sur des sujets connexes, mais pas celui-là.
Alors, dites-moi, en quoi ça consiste exactement la recherche en virologie informatique ?
C'est de considérer qu'un code malveillant, un virus, un ver, etc., peut être étudié par lui-même. Donc nos premiers travaux ont été des travaux plutôt théoriques pour savoir comment on définissait un virus. Donc c'était un sujet extrêmement intéressant parce que ça fait remonter à la naissance de l'informatique avec Turing, Clini. On a montré comment certains résultats des années 40 pouvaient être utilisés pour les modéliser correctement. Puis à partir de là, c'est de concevoir des systèmes de protection ou de détection de ces codes malveillants ou même des systèmes d'attaque de ces codes malveillants, ce qu'on est en train de faire aussi actuellement.
Justement, comment se font ces attaques virales ? Comment ça se passe ?
Alors, une attaque d'un code malveillant, ça se passe après toujours la même façon. En fait, il faut que le code malveillant pénètre dans le système. Pour ça, il y a, on va dire, deux grandes méthodes. Soit ce qu'on appelle par l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que l'on va s'arranger pour avoir un site internet infecté par un code malveillant. Et puis, on accède à ce site par l'intermédiaire de différents autres sites en alléchant un peu le pauvre internaute. Ou alors, c'est sur une clé USB ou sur un DVD, par exemple. L'autre grande façon, c'est de savoir que tel système a une faille et d'exploiter cette faille. Alors, les failles les plus connues sont des failles sur, par exemple, des serveurs avec des attaques de type par débordement de mémoire. Une fois que le code malveillant est sur place, Mais il peut faire plein de choses. Il va essayer de prendre possession du système, il va se camoufler pour ne pas être repéré, parce que maintenant, les codes malveillants sont des programmes bien designés, bien conçus. Ils sont plus faits par des jeunes adolescents pour répartir leurs copines, hein. Ça c'est terminé.
Il y a un marché du piratage informatique ?
Oui, il doit y avoir un marché noir du code malveillant, parce que si on regarde rien que le code malveillant qui sert à envoyer du spam, donc ce sont eux qui construisent des botnets. Alors un botnet, c'est un réseau de machines infectées, qu'on appelle des machines zombies, qui sont infectées par un code malveillant, qu'on appelle un bot.
Et quelle est la taille moyenne d'un botnet ?
Des botnets, c'est à peu près entre 1 et 10 millions de machines infectées. Chaque machine envoie une petite quantité d'emails pour ne pas être détectée, qui sont du spam. Et chaque envoi de spam est rémunéré. Ce qui implique qu'à la base, il y a certainement des gens qui font des botnets pour gagner de l'argent. Puis d'autre part, tout ce qui est les botnets, tout ce qui est code malveillant ou virus et vers pour l'espionnage ou pour des histoires d'espionnage essentiellement, ça aussi ils sont extrêmement bien faits et souvent invisibles, pratiquement invisibles.
Très bien. Il y a des exemples célèbres de codes malveillants qui ont émergé ces dernières années. Récemment, il y a eu une attaque Google en Chine. Ces attaques font parfois des dégâts importants. Existe-t-il des moyens efficaces de lutter contre ces menaces ?
C'est une question difficile. C'est-à-dire que, en fait, d'un point de vue théorique, on sait démontrer qu'il n'y a pas de moyens efficaces, en toute généralité, pour se défendre face à ces attaques. Ces attaques, elles sont liées en partie aux vulnérabilités des systèmes. Et ces vulnérabilités de systèmes proviennent des erreurs, des bugs qu'il y a dans nos logiciels. Et comme ça, on ne sait pas faire des logiciels 100% sûrs. Mais tant qu'on ne sera pas les faire, généralement, il y aura des failles par lesquelles pourront passer les codes malveillants. Alors, c'est pas parce qu'on sait pas faire qu'on fait pas, parce qu'en informatique généralement on ne sait pas faire, mais on fait quand même. Donc eh bien, ce que l'on a, ce sont des algorithmes de détection qui font de leur mieux pour prévenir ou détecter les attaques. À l'heure actuelle, le mécanisme de défense le plus courant, c'est ce qu'on appelle par signature.
Par signature, vous entendez ?
La signature, c'est ce qui va identifier un logiciel. C'est un petit morceau de texte, il faut voir un programme comme un texte. Et c'est un petit morceau de texte qu'on va sélectionner et où là on va dire, ah bah ça c'est tel logiciel. C'est un peu comme la carte d'identité du logiciel, quoi. On essaie d'identifier quelque chose. Donc c'est une idée extrêmement efficace et qui est utilisée par tous les antivirus. Si on connaît le virus et s'il arrive, il sera détecté.
Mais si on ne le connaît pas,
il ne sera pas détecté. Pire, si c'est le même virus que d'habitude mais qui a légèrement changé, légèrement muté, dans ce cas-là, on ne va pas le détecter parce qu'on n'aura pas la bonne signature. Ainsi, un attaquant, pas forcément extrêmement malin, va prendre un virus connu, le modifier très légèrement, en plus il peut même être modifié de manière automatique, et il ne sera pas détecté.
Alors, comment fait-on dans ces cas-là ?
Ben dans ces cas-là, c'est plutôt une réaction après coup, c'est-à-dire qu'on voit que les machines sont infectées, on cherche à comprendre quel est le virus ou le code malveillant qui a infecté les machines. Et ensuite, on rédige une signature et on met à jour sa base de signature et son antivirus.
Et si on est pris dans un botnet, par exemple ?
Alors, par exemple, pour les botnets, quand on a un grand nombre de PC infectés, il est parfois extrêmement difficile de neutraliser un tel réseau de machines zombies. Donc, ce que l'on essaye de proposer actuellement, ce sont plutôt des attaques contre ces botnets. Donc, c'est une forme de défense par l'attaque. Ça, c'est ce qu'on essaye de simuler au sein du LHS. On a une sorte d'éprouvette où on simule un mini-internet. On construit le botnet et on essaye de se faire passer pour une machine infectée. En fait, on n'est pas du tout infecté, on est dedans, mais on est gentils. Et à partir de là, on essaye de neutraliser les communications entre les différentes machines zombies du botnet. Et ça, on y arrive pour certains systèmes tels que WellDAG.
WellDAG ?
WellDAG, qui est un botnet qui envoie des spams à travers le monde, relativement connu.
Voilà. Est-ce que finalement, ce n'est pas une lutte sans fin ? Puisqu'il y a des attaques de virus tous les jours, à un moment, ça ne va pas s'arrêter.
Non, c'est une lutte sans fin. En plus, c'est une lutte perdue, parce que c'est toujours une lutte où le défenseur a toujours un coup de retard sur l'attaquant. Donc la guerre est un petit peu perdue d'avance. Ceci dit, il ne faut pas être pessimiste, parce que d'une part, nos logiciels sont de plus en plus, au moins les logiciels qui permettent d'entrer dans un système sont de plus en plus sûrs, c'est-à-dire qu'ils ont moins de fautes. On a des systèmes de protection à l'intérieur des systèmes d'exploitation. Et puis on peut penser qu'on va avoir de nouvelles méthodes de détection des codes malveillants, ce dont on fait de la recherche là-dessus dans l'équipe CART.
Et quelles sont vos perspectives pour les prochaines années au sein du laboratoire de haute sécurité ?
D'abord, c'est de développer un travail sur les codes malveillants, et plus généralement sur la sécurité informatique, mais essentiellement sur la virologie, qui soit indépendante et académique, c'est-à-dire en dehors des grandes entreprises ou en dehors de certains services de l'État. Les retombées d'avoir une recherche indépendante, c'est justement qu'elle soit indépendante et donc que finalement on ne roule pas dans la farine par rapport au problème, à ce problème très précis de la sécurité informatique. Quoi.
Ouais.
Parce que derrière, c'est tous les virus espions qui regardent ce que vous faites, qui renvoient ça quelque part, le profilage, etc.
Et quel peut être l'impact de la recherche en virologie ? À part mieux protéger nos systèmes.
Déjà, je pense que c'est relativement important, c'est d'avoir effectivement quand même de mieux protéger nos systèmes et d'avoir d'autres façons de les protéger.
Quand vous dites d'autres façons de mieux les protéger, vous excluez les antivirus et autres logiciels qu'on trouve sur le marché actuellement ?
Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on peut amener d'autres méthodes que la reconnaissance par signature. Et c'est ce qu'on développe ici actuellement, ce qu'on appelle reconnaissance par analyse morphologique. Donc ce que l'on fait en quelques mots, c'est que on construit une sorte de squelette d'un code malveillant qui ne reprend que les grandes constructions de ce code. Donc on représente ça sous la forme d'un graphe. Et l'avantage d'avoir une telle représentation par un graphe, c'est que c'est relativement robuste par rapport aux mutations. Si on change un petit peu le programme, en gros, le squelette va pas vraiment bouger. De ce fait, si on a une variante d'un code malveillant qui arrive, on sait le détecter tout de suite. Donc ça, on est en train de le développer, c'est un prototype qui tourne, il est même accessible sur le web, on a même fait des représentations de son squelette d'un code malveillant sur les pages internet du LHS, on voit des vidéos, vous verrez, c'est très joli. Mais on a aussi d'autres idées qui, en utilisant beaucoup d'outils connus d'ailleurs, en informatique théorique ou en sûreté ou en sécurité, que l'on essaye de s'approprier et d'utiliser pour la détection des codes malveillants. Et pour l'instant, cela marche pas trop mal.
Jean-Yves Marion, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.